RFI, 6h, à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Pierre Boudias.
Ah, bonjour Julien, bonjour à tous.
L'Iran se réserve le droit de répondre aux attaques israéliennes.
Réaction de Téhéran après les bombardements qui ont visé son sol hier. La République islamique fait état de 4 morts mais évoque des dégâts minimes sur ses infrastructures. La Géorgie s'éloigne de l'Europe. Les résultats provisoires des élections législatives laissent entrevoir une victoire de la formation pro-russe. Une partie de l'opposition évoque un scrutin volé. Au Japon, c'est ce dimanche que les électeurs sont appelés à renouveler le Parlement. Rare scrutin en jeu dans un pays habitué à la stabilité politique. Les conservateurs pourraient perdre la majorité au profit du centre-gauche. Et puis l'éolien, bourreau des forêts équatoriennes. L'utilisation de bois souple pour les pales des éoliennes met à mal les ressources naturelles du pays. Explication en fin de journal.
Les appels à la retenue se multiplient au lendemain de l'attaque israélienne en Iran.
Le président américain Joe Biden dit espérer la fin du cycle des ripostes entre les deux États, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime sa profonde inquiétude face au risque d'escalade. Les frappes menées par Tel Aviv ont fait 4 morts en Iran. Selon les autorités, la République islamique évoque des dégâts mineurs sur ses infrastructures de défense à Téhéran, Siavosh Ghazi.
Selon l'état-major des forces armées iraniennes, les avions de combat israéliens sont entrés dans l'espace aérien irakien, dans la partie contrôlée par les États-Unis. Ils n'ont pas pu s'approcher du ciel iranien et ont tiré des missiles depuis une distance de 100 km de la frontière pour viser des systèmes de radar le long de la frontière et dans la région de Téhéran. Le communiqué ajoute que l'entrée en action du système anti-aérien a empêché les avions israéliens d'entrer dans le ciel iranien et de nombreux missiles ont été interceptés. Il ajoute également que les systèmes de radar ont subi des dommages mineurs. C'est la première fois que l'Iran donne des détails sur l'opération israélienne. Dans le communiqué, l'état-major des forces armées affirme également que l'Iran se réserve le droit de répondre le moment venu. Déjà, le ministre iranien des Affaires étrangères avait affirmé qu'il n'y avait pas de limite pour défendre le territoire iranien. Toute la question est de savoir si l'Iran va lancer de nouvelles attaques contre Israël ou en rester là, puisque les autorités iraniennes affirment que l'opération israélienne n'a pas été un succès et que les dégâts sont mineurs. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé hier qu'aucun site nucléaire n'avait été touché. Allié de Téhéran, le Hezbollah a fermement condamné l'opération israélienne, opération jugée dangereuse par la milice libanaise. Le Liban également a nouveau frappé hier par l'armée israélienne. La banlieue sud de Beyrouth a été touchée après un nouvel ordre d'évacuation. Des maisons auraient également été dynamitées dans le sud du pays, selon l'agence de presse libanaise. La situation dans le nord de la bande de Gaza est catastrophique. Alerte lancée hier par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, évoque une grave pénurie de fournitures médicales qui prive les habitants de soins vitaux. Après plusieurs heures de raids israéliens, l'OMS dit avoir repris contact avec ses médecins dans le dernier hôpital en état de marche de Jabalia. 3 soignants auraient été blessés et de nombreuses personnes arrêtées. L'armée israélienne dément toute frappe ou tir à balles réelles dans l'enceinte de l'établissement.
RFI 5h03 en temps universel et c'est un week-end d'élections un peu partout dans le monde.
D'abord en Géorgie où on votait hier à l'occasion de législatives cruciales pour l'avenir du pays. La République du Caucase qui semblait hier s'éloigner de l'Europe après dépouillement des bulletins dans 70% des bureaux de vote. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, réunissait 53% des suffrages. La formation proche de Moscou devance l'alliance de partis pro-européens qui lui faisait face et espérait renverser la vapeur en faveur d'un rapprochement avec Bruxelles. Le taux de participation a été de 58%, ce qui est un des plus hauts observés depuis une dizaine d'années dans le pays. Depuis Tbilissi, Régis Janté.
Avec 53% des suffrages, le Rêve géorgien est pour le moment détenteur d'une majorité ferme, mais loin de la majorité constitutionnelle qu'il disait viser. Côté opposition, 4 formations entrent au Parlement, celles qui ont signé la charte pro-européenne. 2 d'entre elles refusent de reconnaître les résultats, estimant, selon leur propre sondage à la sortie des urnes, avoir obtenu 52% des voix à L4. Elles refusent d'autant ces résultats que le parti au pouvoir a promis de les faire interdire après le scrutin et qu'elles sont viscéralement opposés à un quelconque retour de leur pays dans l'orbite russe. Le scrutin de ce samedi s'est relativement bien déroulé dans la plupart des plus de 3000 bureaux de vote du pays, même si des irrégularités ont été constatées ici et là et que des bagarres ont éclaté aux portes d'une cinquantaine de bureaux. Ce climat tendu qui a marqué toute la campagne renforce le fort climat de suspicion qui règne entre le Rêve géorgien et l'opposition. Cette dernière se dit déterminée à défendre son vote dans la rue dès l'annonce des résultats finaux. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Et pour rappel, l'Union européenne avait averti que les chances du pays d'intégrer les 27 dépendaient des résultats de ces législatives. C'est aujourd'hui que les Lituaniens sont appelés aux urnes, second tour des élections législatives dans le pays balte, scrutin qui pourrait porter le centre-gauche au pouvoir au détriment des conservateurs actuellement aux affaires, pouvoir et opposition qui ont porté d'une même voix leur volonté de soutien à l'Ukraine face aux appétits russes. RFI, il est 5h05 en temps universel, 14h05 à Tokyo, où les bureaux de vote sont également ouverts ce dimanche. Les Japonais appelés aux urnes pour un scrutin législatif à enjeu, un fait rare dans le pays alors que le parti de conservateurs, le parti libéral-démocrate, gouverne le pays presque sans discontinuer depuis 1955. Si le PLD du Premier ministre Shigeru Ishiba pourrait perdre sa majorité, c'est surtout l'abstention qui devrait s'avérer élevée, les scandales à répétition, une économie morose et alimente une défiance envers la classe politique. Et pour Guibourg Delamotte, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, le paysage politique n'aide pas à mobiliser l'électorat.
La lisibilité, disons, de l'offre politique, elle se clarifie un peu. Hein. C'est vrai qu'on a, on a vraiment des programmes distincts qui s'opposent. Donc ça devrait plutôt jouer dans un sens pour clarifier les choix électoraux. Donc c'est plutôt positif en principe. Mais c'est vrai que la population finit par avoir le sentiment que les choses ne changent pas. On se retrouve avec M. Ishiba, qui est quelqu'un d'assez âgé maintenant, M. Noda, qui a déjà été Premier ministre, M. Ishiba, qui a essayé d'être Premier ministre un grand nombre de fois, qui a eu en fait des postes au gouvernement. Si bien que pour la population, en fait, on se retrouve avec deux personnalités assez similaires, puisque l'un comme l'autre ont été transfuges du PLD dans les années 90, avec l'un qui est resté donc hors du parti, et puis l'autre qui a réintégré le parti, M. Ishiba. Donc, il n'y a pas beaucoup de renouvellement pour la classe politique. Face à ces deux personnages, Ichin no Kai, donc un parti qui est très à droite, lui, émerge depuis quelques années déjà. Et le Likken Mishito, lui, donc le parti démocrate, il est quand même très à gauche pour une grande majorité de l'électorat, en fait.
Et à noter que seuls 23% des candidats en lice sont des femmes, malgré tout un record dans un pays marqué par de fortes inégalités de genre. Deux femmes sur scène hier lors du meeting de campagne démocrate dans le Michigan. L'influente ex-première dame Michelle Obama, aux côtés de la candidate Kamala Harris, pour appeler à la mobilisation face au risque de victoire de Donald Trump. Le candidat républicain de plus en plus confus et instable selon sa rivale, qui s'est une nouvelle fois posée en garante de la démocratie depuis la Pennsylvanie. Donald Trump a lui promis de relancer les projets d'extraction de gaz à fracturation hydraulique, méthode accusée d'être néfaste pour l'environnement. Au Sénégal, c'est aujourd'hui que s'ouvre officiellement la campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Hier, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé acteurs politiques et électeurs à la retenue, le chef de l'État qui a promis des élections libres, démocratiques et transparentes. En Tunisie, cette fois, cela fait maintenant 3 semaines que le président Kais Saied a été réélu, un second mandat que le chef de l'État entame sous le signe de travaux dans les grandes villes du pays. Le locataire du palais de Carthage a multiplié les directives pour remettre en état des infrastructures tunisiennes. C'est notamment le cas dans le centre de Tunis où il s'est rendu vendredi soir, comme nous l'explique notre correspondante Amira Swilem.
Tunis a des airs de décors de cinéma abandonnés et cela ne plaît pas au président tunisien.
Il va falloir procéder à une épuration en Tunisie. On va bientôt trouver une solution à tout cela. Ça ne va pas être bien difficile de régler ça. Regardez-moi toutes ces saletés. Et ça, c'est au bord de l'effondrement. C'est dangereux.
Nettoyer et rénover les grandes places de Tunis. C'est l'ordre donné par Kais Saied qui en a profité pour superviser la rénovation en cours du centre culturel Ibn Khaldoun dans les moindres détails.
Un cinéma avec des fauteuils de couleurs différentes, ça ne va pas. Ce n'est pas acceptable.
Un volontarisme qui a plu à ces quelques grappes de Tunisiens venus le saluer et lui soumettre quelques requêtes.
On est fatigué, monsieur le président.
Pensez aussi au métro.
Il y a 8 mois déjà, c'est la rénovation de la piscine du parc du Belvédère qu'avait exigé Kais Saied. Le complexe a été nettoyé et rénové avec le concours de l'armée en un temps record. Si ces opérations servent l'image du président bâtisseur que Kais Saied souhaite se donner, c'est bien une banque privée tunisienne qui les a financées. Amira Swilem, Tunis, RFI.
Au moins 50 morts dans le centre du Soudan après une attaque des paramilitaires. Information communiquée par le comité de résistance Asaïssa, groupe pro-démocratie locale. Selon lui, ce lourd bilan fait suite à une série de sièges de villages dans l'état d'Al Jazeera menés par les forces de soutien rapide.
On part à Cali en Colombie où se tient la COP16 sur la biodiversité.
Et la journée de ce dimanche est dédiée au business. Une enquête de l'agence d'investigation environnementale, une ONG basée aux États-Unis, révèle justement que les grands fabricants d'éoliennes sont liés à la déforestation en Équateur, car pour construire les pales des éoliennes, les fabricants utilisent du balsa, un bois particulièrement léger, résistant et originaire d'Amérique latine. Le boom sur les énergies renouvelables met sous pression la forêt vierge et les communautés locales. Les précisions de Jeanne Richard.
L'Équateur produit 90% du balsa dans le monde. Le pays exporte 56 000 tonnes de ce bois tropical chaque année. La majorité est achetée par plusieurs gros fabricants d'éoliennes basés en Chine ou aux États-Unis. General Electric Vernova, Goldwind ou Mingyang. Mais les plantations existantes ne suffisent plus face à la demande qui explose. Résultat, une ruée sur le balsa sauvage des forêts vierges et de nouvelles plantations avec de la déforestation, explique Aibing Ma, responsable Asie de l'agence d'investigation environnementale.
La surexploitation du balsa a eu des répercussions environnementales, sociales et économiques en Équateur, avec parfois des actions en justice.
La ruée sur le balsa a même dépassé les frontières équatoriennes jusqu'au Pérou, le tout aux dépens de l'incroyable biodiversité de ces forêts et des peuples autochtones qui y vivent.
Toutes les parties concernées, dont les États-Unis et la Chine, en tant que leader mondial sur l'éolien, devraient travailler ensemble à assainir toute la chaîne d'approvisionnement.
Les avantages que nous procurent les énergies propres ne devraient pas se faire au détriment de dégradation environnementale dans les pays du Sud, conclut-il.
Et pour rappel, cette COP16 sur la biodiversité se conclut vendredi prochain, le 1er novembre.
Et puis les Européens vont devoir vérifier leur montre ce dimanche.
La totalité des pays de l'Union Européenne vont en effet se réveiller une heure plus tard aujourd'hui, puisque l'UE est repassée à l'heure d'hiver. Des changements d'heure tous les 6 mois que les Européens auraient pourtant dû abandonner depuis 2021, Pierre Benazet.
3 ans plus tard, rien n'a changé. Pourtant, une grande consultation des citoyens avait démontré que 80% d'entre eux ne voulaient plus des changements d'heure. Pourtant, le Parlement européen avait voté en 2019 pour y mettre fin. Pourtant, les économies d'énergie réalisées étaient devenues négligeables. Et malgré tout, les 27 n'y arrivent pas. Et c'est bien des 27 qu'il s'agit, car chaque pays doit choisir. L'UE avait comme seul rôle de coordonner la date. Et c'est là que le bât blesse, parce que personne n'est d'accord. Les pays du Nord préfèrent regarder l'heure d'hiver, les pays du Sud l'heure d'été. Et ce n'est même pas une règle générale. Ceci donne une situation inextricable pour la coordination entre des pays qui, pour l'instant, sont très majoritairement calés sur le même fuseau horaire. Résultat, on a glissé le sujet sous le tapis. Au début, on a dit que c'était à cause du Covid, après de la relance, ensuite de l'Ukraine. Et là, pour l'instant, on attend probablement la prochaine crise pour lui mettre sur le dos le maintien du changement d'heure. Résultat, le changement d'heure a débuté en France en 1916. Il a été interrompu à peine 3 décennies. Et aujourd'hui, il ne semble pas en voie de disparition. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et puis un mot de sport avant de nous quitter, de football notamment, et c'est une véritable gifle qu'a reçu hier soir le Real Madrid, lors bien sûr du Clasico du championnat espagnol. Victoire 4-0 des Barcelonais au Camp Nou face au Merengue, grâce notamment à un doublé du Polonais Robert Lewandowski. À la peine durant toute la rencontre, le Français Kylian Mbappé a lui égalé un triste record. Vieux de 8 ans, l'avant-centre signalé 8 fois hors jeu lors de cette rencontre. Seul Zlatan Ibrahimovic avait fait pire. Et à noter qu'un autre classique a lieu aujourd'hui, cette fois-ci en France, le classique Paris-Saint-Germain-Marseille. Cela se jouera bien sûr au Vélodrome dans le sud de la France. Voilà, c'est la fin de cette édition. La suite des RFI Matin, c'est avec vous, Julien Coquelorem.
Merci Pierre Boudias, à tout à l'heure. Dimanche 27 octobre 2024, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information et on continue d'observer les suites de la riposte israélienne en Iran dans la nuit de vendredi à samedi. L'Iran qui affirme son droit à se défendre malgré les appels à la retenue, Téhéran continue dans le même temps de minimiser les dégâts des frappes de la nuit dernière et annonce un bilan de 4 morts. Le cycle des ripostes est-il terminé comme l'espère Joe Biden ou le risque d'escalade est-il encore présent? Les Israéliens s'interrogent aussi entre soutien à leur armée et prudence. Vous les entendrez au micro de Michel Paul dans le journal de 6h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi la Géorgie et le parti au pouvoir en tête des législatives selon des résultats encore partiels. Le rêve géorgien proche de Moscou accusé d'avoir volé l'élection par l'opposition pro-européenne. On repart dans les rues de Tbilissi tout à l'heure. À suivre d'ici là notamment un nouveau journal Afrique avec Vincent Dublange et le point sur ces nouvelles accusations contre les FSR au Soudan, des massacres dans plusieurs villages imputés aux paramilitaires du général Hemeti. Une organisation humanitaire évoque 124 morts et de nombreux blessés. On en parle avec Florence Maurice à 5h30, temps universel. RFI Matin le dimanche, c'est aussi notre livre international et une plongée dans l'Amérique rurale. À 9 jours de la présidentielle, la journaliste américaine Monica Potts raconte son retour dans l'Arkansas où elle a grandi et où les femmes meurent plus jeunes aujourd'hui qu'auparavant. La drogue y est notamment pour quelque chose. Et puis au sommaire également, notre tour du monde des correspondants. Après la vente à un groupe américain du Doliprane, l'un des médicaments les plus consommés en France et produit encore pour l'instant dans l'Hexagone. Quand les fleurons passent sous pavillon étranger, quand la souveraineté industrielle d'un pays est en question, on en parle dans une heure aux États-Unis, au Sénégal et en Allemagne. RFI Matin, nous sommes ensemble jusqu'à 8h, temps universel. Et alors que la COP16 sur la biodiversité se poursuit, RFI Matin vous emmène pour commencer en Australie, dans la région de Nouvelle-Galles du Sud, très touchée par les gigantesques feux de forêt qui ont ravagé le pays il y a 4 ans. Vous vous en souvenez peut-être. Nous sommes à Manyana, une petite ville où les habitants se mobilisent pour protéger leur forêt, la seule épargnée par ces incendies dévastateurs. Aujourd'hui, c'est un danger tout aussi immédiat, mais bien plus édifiant qui menace ces arbres. Il pourrait être rasé entièrement pour construire 150 maisons de vacances. Reportage, Grégory Place.
4 ans après les plus graves incendies qu'ait connus l'Australie, ces stigmates sont encore très visibles. Sur des kilomètres, des troncs d'arbres calcinés, recouverts partiellement par de la végétation, mais d'où presque toutes les espèces animales ont disparu. C'est d'ailleurs ce qui avait choqué Lorraine quand elle avait enfin pu rentrer chez elle à Manyana.
Quand on est revenu, c'était le silence total. Il n'y avait plus d'oiseaux, on n'entendait plus les bruits des insectes et les kangourous qui nous rendaient visite chaque jour avaient disparu.
Les feux dans ce secteur ont en effet ravagé 95% du parc national qui borde Manyana. Mais par miracle, une petite forêt de 20 hectares a été épargnée. Elle est logiquement devenue un refuge pour les animaux ayant échappé aux flammes. C'est ce que nous explique Lex, il est sauveteur animalier.
Les zones qui ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud sont plus grandes que certains pays d'Europe. Mais cette petite forêt, elle est un petit refuge qui est toujours là et qui est pleine d'animaux sauvages.
Bill le confirme en tout point, il est le président de l'association Manyana Matters.
Si vous regardez là-haut dans cet arbre, il y a un creux où vivent des mammifères arboricoles. Et ces griffures-là, vous les voyez? Ça, c'est quand des opossums volants atterrissent sur l'arbre. Cette forêt est pleine de ces exemples et pourtant elle va être détruite.
Il y a quelques jours, en effet, le ministère de l'Environnement a délivré à un promoteur l'autorisation de raser cette forêt pour y construire environ 150 logements de vacances. Une décision incompréhensible, selon Bill.
Une partie de cette forêt est considérée par le gouvernement fédéral comme un habitat en danger d'extinction imminent. Mais il va quand même être rasé par des bulldozers. Quelle est la logique dans tout ça?
Les autorités elles-mêmes semblent avoir du mal à la trouver, chacun du niveau fédéral au conseil municipal local, se renvoyant la balle. Neville, un autre membre du collectif, se désespère du manque d'intérêt des autorités pour la question environnementale.
On parle du futur de nos enfants, de mes petits-enfants. Et j'aimerais que cette forêt reste telle qu'elle est. On finira par apprendre de nos erreurs, mais sûrement trop tard.
En attendant, le promoteur a positionné ses premières machines de chantier. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Notre reportage international en Australie que vous retrouvez sur RFI.fr.
RFI Matin.
Et comme chaque dimanche, l'actualité politique en France sur RFI et Marine Le Pen à la une aujourd'hui. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour.
On promettait un octobre en enfer pour la chef des députés RN, jugée en ce moment dans l'affaire des assistants parlementaires. Pourtant, la double finaliste de l'élection présidentielle n'est jamais apparue aussi puissante politiquement.
Et oui, la dissolution est passée par là. Le contingent mariniste, 126 députés depuis les dernières élections législatives, pèse plus que jamais sur un gouvernement fragile dirigé par un homme de droite, Michel Barnier. Le tout dans une assemblée morcelée où toutes les solutions ou presque passent par le Rassemblement national. La gauche paraissant déterminée à faire du bloc central et de l'extrême droite des alliés objectifs. Cette position hyper influente permet à Marine Le Pen d'exister politiquement au moment où elle comparaît, vous l'avez dit, devant la justice dans la fameuse affaire des assistants parlementaires pour laquelle elle encourt, rappelons-le, une bien fâcheuse peine d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Conséquence, l'attention médiatique et politique est davantage braquée sur la position du RN sur tel ou tel texte de loi que sur le procès.
Et pour le moment, Marine Le Pen engrange des victoires essentiellement symboliques.
Avec une pression maximale exercée sur le gouvernement, Marine Le Pen a demandé une nouvelle loi immigration en septembre. Elle a été annoncée quelques jours plus tard. Un ministre, Antoine Armand, chargé de l'économie, a été recadré par Michel Barnier après avoir dit ne pas vouloir travailler avec le RN. Et ce petit jeu pourrait bien aboutir sur des victoires politiques concrètes, à commencer par le budget. Il n'est pas trop tard pour revoir votre copie. Nous comptons bien vous convaincre pour ne pas être obligés de vous contraindre. Voici les mots de Marine Le Pen en début de semaine à l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Un ton menaçant, car elle le sait, elle peut, en cas de très probable motion de censure consécutive à un 49-3, renverser Michel Barnier.
Et qu'est-ce que le RN peut imposer dans le prochain budget ?
Eh bien, c'est là que les choses se compliquent pour ce parti habitué au confort de l'opposition. Si l'an dernier, la stratégie de la cravate ne coûtait pas grand-chose, cette fois, le RN doit être crédible. Des demandes trop farfelues le discréditent, des demandes trop exigeantes le placent dans le camp des déstabilisateurs. D'où l'importance des lignes rouges à définir clairement dans les prochains jours. Depuis de longues semaines, les troupes de Marine Le Pen évoquent en priorité les taxes sur l'électricité et les pensions de retraite. Reste à savoir également comment tranchera Matignon. Michel Barnier ne veut surtout pas paraître inféodé à l'extrême droite. Marine Le Pen, elle, veut aiguillonner le gouvernement, mais arriver à la prochaine dissolution, voire la prochaine présidentielle, en opposante crédible.
Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. Et à 9 jours maintenant de la présidentielle, ce sont encore des régions qui devraient voter majoritairement pour Donald Trump le 5 novembre. Notre livre international de cette semaine nous plonge dans l'Amérique rurale où l'on meurt plutôt qu'en ville, 2 ans d'écart d'espérance de vie. On y meurt aussi plutôt qu'avant, notamment chez les femmes où l'espérance de vie a diminué de 5 ans en moyenne à cause, entre autres, de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui les maladies du désespoir, les suicides, l'alcool au volant, les overdoses. Monica Pott, journaliste politique pour le média 538, est retournée dans sa ville d'origine, Clinton, dans l'Arkansas, état rural du sud des États-Unis, pour comprendre pourquoi certaines femmes s'en sortent et d'autres non dans l'Amérique de 2024. Monica Pott sur RFI ce matin avec Marie Normand.
Bonjour Monica Potts.
Hello.
Comment décririez-vous Clinton, cette ville de l'Arkansas où vous avez grandi et qui est au cœur de votre livre ?
C'est une ville incroyablement petite. Il n'y a rien autour de vous. Il y a votre petite ville et des arbres, des montagnes et des rivières. Le taux de pauvreté se situe autour de 15-20% depuis ma naissance. Certaines personnes s'en sortent bien, mais c'est un endroit où beaucoup de gens ont toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Et le revenu médian est encore bien inférieur à la moyenne nationale. C'est un état plus pauvre que le reste du pays.
Alors vous comparez votre trajectoire à celle de Darcy, votre ami d'enfance. À l'époque, ce qui vous rapproche, c'est le désir irrépressible de quitter justement cette ville de Clinton.
Oui, nous avions le sentiment que cette ville était trop petite pour nos ambitions et qu'elle ne correspondait pas vraiment à nos désirs à bien des égards. Les gens écoutent de la country, ils veulent rester là-bas et fonder une famille. Nous, nous voulions partir à l'aventure. Nous voulions écouter la musique alternative des années 90 comme Nirvana. Nous avions ce grand atlas et on imaginait ce que ça ferait de vivre là-bas.
Vous allez réussir à quitter Clinton, mais pas votre ami Darcy qui va multiplier les petits boulots, perdre pied, devenir toxicomane, sans domicile fixe. Vous essayez de comprendre pourquoi dans ce livre. Vous insistez d'abord sur le poids de la religion omniprésente en Arkansas. De quelle façon cela influence-t-il la façon dont les filles grandissent en Arkansas ?
Oui, c'est une religion chrétienne évangélique très conservatrice que l'on retrouve partout. Par exemple, à Clinton, l'église baptiste du Sud institue une hiérarchie très explicite. Ce sont les hommes qui commandent, il faut les écouter et ils doivent écouter Dieu. Et vous devez vivre votre vie d'une certaine manière, adhérer à un certain code moral. On nous a vraiment appris à nous fixer des objectifs et à planifier notre avenir pour être une bonne épouse et une bonne mère. Le premier emploi et tout le reste était vraiment secondaire, ce qui influençait nos propres ambitions. En mathématiques et en sciences, par exemple, nous exigeons des femmes qu'elles soient parfaites. Et au fur et à mesure qu'elles avancent dans les études, la vie commence à peser sur les filles d'une manière différente de celle des garçons. Cela les amène à revoir leurs ambitions à la baisse et à être plus réalistes. Peu à peu, on voit les filles décrocher, faire un peu moins d'efforts et les mêmes schémas se répètent. Cela devient alors un problème social et je pense que le poids de l'Église y contribue.
Alors d'autres facteurs expliquent les difficultés des femmes en zone rurale et le fait qu'elles meurent plus jeunes qu'avant. Vous parlez notamment de la drogue, de la meth disponible partout. Derrière cette description très sombre de votre ville d'origine, vous tentez de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse claire à cette question ?
Je n'ai pas trouvé de réponse claire et simple à cette question. Ce que je pense avoir démontré, c'est qu'il y a donc 1 million de petits endroits où l'on peut creuser dans l'histoire d'une personne pour être capable de dire « ça c'était un facteur important, ça c'était un tournant ». Et lorsque nous les additionnons, nous pouvons comprendre pourquoi nous avons construit cette vie.
L'Arkansas qui vote historiquement républicain et qui votera majoritairement Trump, on le sait, le 5 novembre, comment vous l'expliquez ?
Part of it is that the United States is changing a lot. We're at a moment where...
Cela s'explique en partie par le fait que les États-Unis sont en pleine mutation. Nous sommes à un moment où, sur le plan économique, de nombreuses personnes sont laissées pour compte. Et sur le plan culturel, les États-Unis sont en train de changer aussi. Nous approchons d'un moment où, dans les prochaines décennies, la majorité des Américains ne s'identifieront plus comme blancs, ce qui a constitué jusqu'ici la majorité de la population américaine. Il existe donc un nombre important de personnes, pour la plupart âgés, pour la plupart vivant en zone rurale et pour la plupart blanches, qui fantasment cette Amérique passée. Ils sont nostalgiques. Trump a su mobiliser à son avantage cette forme de racisme, de nativisme, de xénophobie. Il dit « Je vais empêcher ce pays de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je vais le ramener à ce que vous pensez qu'il était. » Cette rhétorique est très puissante et elle surpasse tout ce que Trump a bien pu faire en tant que président. Je pense que les gens votent pour une idée qui leur plaît lorsqu'ils votent Trump. Et cela est un défi pour nous parce que, vous savez, nous sommes très fiers de notre démocratie. Beaucoup d'experts sont aujourd'hui extrêmement inquiets pour son avenir.
Merci Monica Potts d'avoir été avec nous sur RFI.
Thank you so much for
Merci beaucoup
me.
De m'avoir reçu.
La journaliste américaine Monica Potts et son livre Les Oubliés de l'Arkansas, bientôt 5h30 en temps universel. Et chaque dimanche dans RFI Matin, Steven Jambeau vient nous partager le programme de l'Atelier des médias. Bonjour Steven.
Bonjour Julien.
Cette semaine, vous mettez à l'honneur un média sénégalais qui promeut l'action des femmes.
Il a pour nom Info L avec un S à la fin. Créé en 2021, il propose des articles, des vidéos sur YouTube et diffuse des visuels sur WhatsApp qui mettent notamment en valeur des initiatives portées par des femmes.
Info L est l'un des lauréats 2024 du prix francophone de l'innovation dans les médias porté par l'Organisation internationale de la francophonie, Reporters sans frontières et France Média Monde, la maison mère de RFI.
Ce prix, InfoL l'a reçu pour son engagement pour une meilleure représentation et une meilleure représentativité des femmes dans les médias. Mon invitée est Alice Diba, fondatrice et directrice exécutive d'InfoL. Elle est journaliste et entrepreneur des médias, deux casquettes pas évidentes à mener de front dans le contexte sénégalais.
Alors c'est vraiment difficile, hein. J'ai l'habitude de taquiner, je commence à avoir des cheveux blancs avec l'entrepreneuriat dans les médias. Et c'est à juste raison aussi, hein, parce que c'est pas facile. Il faut savoir que, on va dire, l'environnement entrepreneuriat, en tout cas au Sénégal, notamment dans les médias, n'est pas assez développé, parce qu'il faut le reconnaître, les médias sénégalais sont en tout cas en partie créés par des hommes d'affaires. Pour être journaliste et créer un média, c'est très, très difficile si l'on sait que les moyens déjà ne sont pas là et il n'y a pas cet accompagnement-là derrière pour que ces journalistes-là puissent mettre en place des médias qui pourront être viables, mais également qui pourront faire dans des productions journalistiquement vraiment pures et dures, que ce ne soit pas seulement le gain derrière, mais qu'on puisse également impacter de manière positive la société.
Alice Djiba, la fondatrice d'InfoL, que l'on retrouve à 11h10, temps universel sur RFI, dans l'atelier des médias.
Et dès maintenant, en podcast sur RFI Pure Radio ou l'application d'écoute de votre choix.
Merci Steven Jambeau.
Bonne journée Julien.
Et sur RFI, il est 6h30 à Paris.